Au Mali, les Occidentaux sont décidément dans de beaux draps. En cherchant absolument des prétextes pour prolonger leur présence au Mali, dans le seul but évidemment de trouver un moyen pour déstabiliser le gouvernement malien, le pays tout entier, les Occidentaux ne s'attendaient pas du tout à se faire encore une fois prendre la main dans le sac. À la grande joie des Maliens, déjà l'Union européenne qui fait ses bagages, Joseph Borrell, le chef de sa diplomatie, a annoncé mettre fin donc aux missions de formation et d'entraînement de l'armée. La place des Occidentaux et de l'ONU au Sahel et surtout au Mali est sérieusement compromise. L'Allemagne ne fait pas exception. La ministre allemande des Affaires étrangères donc, a rencontré le président de la transition Assimi Goïta lors d'un déplacement cette semaine au Mali, au moment où Berlin sent sa place donc assez menacée. Le but de ce voyage est notamment de clarifier la situation, de se faire une idée précise de la situation politique et sécuritaire en vue de décider du maintien ou non donc des troupes allemandes dont le mandat sur place expire donc en mai, selon le porte-parole du ministère. Des entretiens sont prévus avec le président Assimi Goïta et le chef de la diplomatie Abdoulaye Diop. Comme la France ou les autres pays européens, l'Allemagne donc s'en fout royalement de la situation sécuritaire du pays et encore plus de la montée en puissance des FAMA. Ce qui intéresse ce beau petit monde occidental, c'est de voir rapidement un nouveau gouvernement fantoche se mettre sur place avant que les autorités actuelles ne mettent au grand jour les nombreux secrets liés aux vraies raisons de la présence occidentale au Mali. L'indignation des pays occidentaux quant à la récente offensive contre les terroristes de l'armée malienne à Moura le prouve amplement et selon certaines sources, Moura était devenue donc une base terroriste d'où les attaques terroristes donc contre le Mali et même les pays voisins s'organisaient. En d'autres termes, cette offensive a carrément chamboulé tous les plans des alliés occidentaux, donc le Mali leur a simplement montrer que la seule chose qu'il leur reste, c'est bien la fuite. Encore une tentative de déstabilisation du pays qui a échoué ce 10 avril. Trois ressortissants européens suspectés de terrorisme ont été interpellés dans le centre du Mali lors d'opérations menées contre les terroristes, comme l'a annoncé mardi soir l'armée malienne. Le détachement FAMA de Diabali a procédé donc à l'interpellation de cinq suspects, dont trois ressortissants européens, affirme un communiqué de l'état-major général des armées. Le communiqué ne précise pas l'identité de ces suspects européens interpellés à Diabali, une localité située à environ 300 km au nord-ouest de Bamako. Mais qui sont-ils? Que faisaient-ils, surtout auprès des terroristes? Cela nous fait également penser à un événement survenu également récemment. Dans une autre opération contre les terroristes, un hélicoptère de l'armée malienne a tiré plusieurs roquettes et il s'avérait qu'à proximité de là, il y avait des casques bleus britanniques, comme l'ont indiqué ce mardi, les autorités britanniques. Un incident donc qui alimente encore une fois les questions sur l'avenir de la mission de l'ONU au Mali. Il s'agit d'un événement qui a eu lieu le 22 mars, a-t-il ajouté, en parlant donc de coups de feu tirés par un hélicoptère des forces armées maliennes dans la zone de Tessit, à proximité d'un détachement de la MINUSMA. Il n'y a pas eu de blessés, les casques bleus étaient en sécurité, à tout point de vue, a-t-il assuré. À la question d'une éventuelle implication, cet événement de paramilitaires d'une pseudo-société donc russe Wagner, le porte-parole a indiqué ne pas savoir. Interrogé pour savoir s'il s'agissait du premier incident de la sorte entre des casques bleus et des forces maliennes, il a indiqué ne pouvoir le dire. Mais que font-ils près des terroristes? Évidemment, si les FAMA attaquent des groupes terroristes et qu'au passage il y a des soldats britanniques de l'ONU qui sont également présents aux côtés des terroristes, c'est clair qu'ils vont aussi se prendre une raclée. En bref, les Occidentaux ont tout intérêt à quitter le Mali au plus vite et d'arrêter de vouloir à tout prix mettre en place des plans de déstabilisation en tout genre à l'intérieur du pays. Ça ne marche pas, le gouvernement et le peuple malien forment un bloc anti-néocolonialiste, ce qui veut dire qu'ils n'arriveront pas à déstabiliser ce pays qui a décidé de prendre son destin en main. Une politique agressive menée sans complexe avec de l'audace auprès des pays européens importateurs pourrait autoriser des investissements nouveaux et surtout colossaux pour pomper le maximum de gaz sénégalais. Les pays européens ont mis en branle une panoplie de mesures pour punir la Russie de son opération militaire contre l'Ukraine, mais les sanctions économiques ne sont pas encore très efficaces, et pour cause. L'Europe reste tout de même dépendante de la fourniture de gaz par la Russie, et tous les experts considèrent qu'aussi longtemps que les vannes de gaz russes ne sont pas fermées, Vladimir Poutine pourra continuer à défier le monde. Seulement, la main des dirigeants européens tremble à l'idée de couper le gaz russe. En effet, plus de 45% du gaz consommé dans l'espace de l'Union européenne et du Royaume-Uni, soit 155 milliards de mètres cubes par an, proviennent de Russie, alors que ces pays n'arrivent pas encore à trouver des moyens de substitution. Il faut dire que les sources d'approvisionnement en gaz sont assez régulières. Les contrats signés sont fixés sur plusieurs années. Du reste, l'Union européenne avait en quelque sorte livré sa sécurité stratégique, pour ne pas dire son destin, entre les mains de sa principale rivale, la Russie, quand elle a décidé non seulement d'une politique de fermeture de centrales nucléaires, notamment en Allemagne, mais aussi manqué de développer en échelle suffisante des énergies alternatives. Aujourd'hui, la réalité géopolitique impose une autre attitude à l'Union européenne, qui préconise désormais de tout mettre en œuvre pour stopper net sa dépendance au gaz russe dans le plus court terme. Le président américain Joe Biden, à l'occasion de sa dernière tournée en Europe, a décidé donc de voler au secours de ses alliés européens pour leur livrer du gaz. Les États-Unis et l'Union européenne ont acté un partenariat pour accroître leurs échanges. L'objectif commun, affaiblir Vladimir Poutine. Poutine utilise les énergies produites en Russie pour prendre en otage les pays qui l'entourent et il utilise les profits pour financer sa guerre, a déclaré Joe Biden. Pour s'approvisionner en gaz russe, les Européens payent plus de 250 millions d'euros par jour à la Russie. D'ici la fin de l'année, les États-Unis s'engagent à livrer à l'Europe 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié, ce qui correspond donc à 10% du gaz russe importé par les Européens. D'ici 2030, l'objectif est d'en livrer 50 milliards par an et cependant, ce type d'énergie coûte cher. Joe Biden a tenu à préciser que les livraisons seront faites au prix du marché qui, par ailleurs, flambe. Et en outre, on sait qu'il faut transporter le gaz américain par bateau, puis le transformer dans les usines. Ainsi, la solution n'est valable qu'à court terme. Encore que l'Europe va fermer les yeux sur les méfaits et autres dégâts environnementaux provoqués par l'exploitation du gaz de schiste américain. Qu'à cela ne tienne, l'Europe, qui voudrait arrêter d'importer du gaz russe au plus tard en 2027, s'y prépare activement, comme l'Allemagne, qui se met à construire à Hambourg, à la quatrième vitesse, un terminal pour méthanier. Les autres pays fournisseurs de gaz ont atteint leurs limites en exportation et devraient développer de nouveaux gros investissements pour pouvoir satisfaire les demandes européennes. C'est le cas des pays du nord de l'Europe, donc en l'occurrence la Norvège et le Danemark, et de tels projets demandent plusieurs années pour leur mise en œuvre. Et de son côté, l'Algérie, qui fournit 13% du gaz consommé en Europe, ne peut pas faire plus, avec des installations d'un autre âge, pour ne pas dire obsolètes, et donc aux capacités non extensibles. Le Nigeria se trouve dans la même situation, et parmi ces diverses sources courtisées par les Occidentaux, donc se trouve aussi le Qatar, le deuxième exportateur mondial de gaz liquéfié après les États-Unis. Même si son pays est déjà au maximum de ses capacités de production et fournit principalement ses partenaires asiatiques dans le cadre de contrats de longue durée, l'émir Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani joue la prudence. Il sera difficile pour le Qatar, malgré ses énormes réserves, de combler une éventuelle fermeture de robinet russe. Doha a indiqué en effet qu'il n'a pas la capacité de production inemployée, donc il ne peut fournir que du gaz qui aurait dû aller vers des pays asiatiques comme l'Inde et le Bangladesh. L'Iran jouit d'importantes capacités de production et d'exportation de gaz et il partage avec le Qatar les 9700 km² d'un immense champ gazier baptisé South Pars, dont 3700 km² dans les eaux territoriales iraniennes et le reste au Qatari, et il l'appelle Nord Dome. Seulement, les pays européens redoutent fortement de tomber donc de Charybd en Scylla, en réglant leur dépendance vis-à-vis de la Russie par une autre dépendance vis-à-vis de l'Iran. La solution pour se libérer de Poutine est donc de se tourner vers de nouveaux marchés fournisseurs de gaz et parmi eux, évidemment, le Sénégal semble être le mieux placé. Dans la pratique, pour développer un projet gazier, il faudrait donc au préalable trouver et s'assurer d'un marché. Les énormes volumes de gaz qui vont donner au Sénégal un nouveau statut mondial. Le potentiel gazier du Sénégal est énorme. Les experts considèrent que les ressources en gaz estimées au Sénégal sont de classe mondiale. Le Sénégal est parti non pour être un grand pays exportateur de gaz. Le champ de grandes tortues Ameim, donc GTA, partagé entre le Sénégal et la Mauritanie, découvert en 2014, est estimé aujourd'hui contenir entre 15 et 20 TCF de ressources gazières, soit entre 530 et 700 milliards de mètres cubes de gaz prouvé. La British Petroleum considère que le potentiel de ce gisement de gaz naturel est beaucoup plus important. Un autre gisement, Yakar Teranga, au large de Kayar, donc découvert en 2016, révèle des ressources déjà prouvées de l'ordre de 700 milliards de mètres cubes. Au dire d'experts, ce potentiel donc serait bien plus colossal que celui de GTA. D'autres proches de gaz donc sont identifiés au large des côtes sénégalaises, comme Saint-Gomard. Des gisements de gaz onshore, sur terre, donc, ont aussi été identifiés au Sénégal comme le gisement de Gadiaga à Thiès. La consommation totale en gaz du continent africain est de 153 milliards de mètres cubes par an, selon la BP statisticale, publiée en juin 2021. Cela donne une bonne idée sur l'importance des réserves de gaz du Sénégal. Au demeurant, il faudra donc plus d'exportations et de recherches pour confirmer ou infirmer une telle évaluation. Ce qui est certain, c'est que le potentiel confirmé est suffisant pour lancer un très gros projet gazier. C'est l'une des raisons clés qui ont fait que BP, la troisième plus grande compagnie pétrolière privée dans le monde, après ExxonMobil et Royal Dutch Shell, donc soit entrée dans ce projet et qu'elle ait pris la direction des opérations en détenant 53% des parts contre 27% pour l'América Kosmos Energy. Dans les milieux des hydrocarbures, le sentiment le mieux partagé est que le Sénégal n'a pas encore effectué assez de recherches pour découvrir tout le gaz que devrait renfermer son bassin sédimentaire. De plus, le Sénégal a l'avantage d'avoir un gaz propre très apprécié sur le marché, donc, et sa situation géographique le favorise au détriment des États-Unis, du Qatar ou même du Mozambique. Les pays occidentaux et particulièrement les pays européens comptent donc sur l'Afrique qu'ils ont toujours méprisé pour se sortir du pétrin. Mais est-ce que Washington ne va pas profiter de la situation pour justement déstabiliser encore plus les pays d'Afrique, donc ciblés par les Européens, pour justement empêcher les Européens de se servir dans les sous-sols du continent africain? Tout comme le Sénégal, le Mozambique notamment, est également dans la liste des Occidentaux. La France a tout tenté pour s'implanter là-bas, mais le gouvernement mozambicain a refusé. Et pour couronner le tout, lors du vote contre la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Occident a réellement tremblé en voyant que les pays d'Afrique ont plus opté pour une abstention que plutôt se ranger derrière eux contre la Russie. Car évidemment, le détachement de l'Afrique par rapport à l'Occident est bel et bien en place. Et c'est ce qui a été vu au monde entier. Il est clair qu'avec la montée en puissance du terrorisme sur le continent, donc il n'y a pas eu de vote organisé pour soutenir l'Afrique. Il n'y a pas eu de campagne de dons d'armes en tout genre pour combattre le terrorisme. Au contraire, au lieu de fournir des armes, ils ont imposé des sanctions et des embargos. Pour que tout le monde comprenne bien, c'est comme si l'Occident poussait l'Ukraine à combattre la Russie et qu'en même temps, il leur imposait un embargo sur les armes. Pour ceux qui ne savent pas, évidemment, c'est délirant, mais ceci est réel et reflète exactement la politique occidentale en Afrique. L'Afrique a toujours été dénigrée, malmenée, pillée, humiliée, et on en passe. Et la seule chose qu'on espère, c'est que l'Afrique profitera de ce conflit occidental pour s'unifier et s'imposer au monde entier. Mais que veut dire l'appel au secours de l'Ukraine au Sénégal? Ce 11 avril 2022, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le chef de l'État Macky Sall se sont entretenus au téléphone. Lors de leurs échanges rendus publics par la présidence de la République dans un tweet, les deux hommes ont évoqué l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale et la nécessité de privilégier le dialogue pour une issue négociée du conflit. Le président Zelensky aurait aussi formulé son souhait projet auprès du chef de l'État Macky Sall, président donc en exercice de l'Union africaine, de faire une communication dans ce sens auprès de ses pairs de l'organisation continentale. Ainsi, donc, après les Européens, les Américains et les Asiatiques, le président Zelensky veut absolument convaincre également les Africains à soutenir sa petite guerre. Poids lourd diplomatique et économique ouest-africain, le Sénégal est également à la tête de l'Union africaine pour un an et sa position sur l'opération militaire russe en Ukraine est donc centrale et largement scrutée. Le pays s'en tient toutefois donc à une neutralité. Même s'il n'est pas le seul pays africain à s'être abstenu lors du vote à l'ONU sur l'Ukraine, le Sénégal a en revanche largement fait réagir les observateurs par le positionnement diplomatique mis en avant, à savoir la neutralité. La question a été posée de savoir s'il s'agit donc d'une volonté de s'affirmer différemment sur la scène internationale ou d'un désir de calmer le jeu au niveau régional et local. L'Assemblée générale de l'ONU votait une résolution donc intitulée « Agression contre l'Ukraine », dont le texte pensé par l'Union européenne avec l'Ukraine exige que la Russie cesse donc immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine et retire immédiatement et complètement et sans condition toutes ses forces militaires d'Ukraine. Si une très large majorité des 193 pays participants a voté pour condamner l'agression de la Russie contre l'Ukraine, 12 pays africains n'ont pas pris part au vote et 17 pays du continent se sont abstenus, dont le Sénégal. Dakar n'a pas voté en faveur de la résolution condamnant l'agression russe contre l'Ukraine. Cette abstention a surpris nombre d'observateurs. Elle pourrait s'expliquer en partie par la position du Sénégal à la tête de l'Union africaine, mais les considérations intérieures ne doivent pas être négligées ni occultées. À l'instar de beaucoup d'Africains, le Sénégal juge donc que cette guerre qui se déroule en Europe est une crise secondaire pour les nations africaines. Si les États-Unis et surtout l'Union européenne sont en première ligne, c'est en partie parce qu'ils subissent directement les conséquences de cette guerre. L'Afrique est généralement en retrait dans ce que l'on pourrait appeler la guerre des autres. Silencieux, la plupart des États africains ne se sont pour le moment exprimés qu'à l'occasion du vote de la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU qui exige donc que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Par ailleurs, il n'est compréhensible donc pour la plupart des Africains que le monde entier soit resté muet face à ce qui s'est passé en Irak, en Libye, en Syrie, au Yémen, et ce qui se passe encore en Israël et sur les territoires occupés, et se mue soudainement en défenseur de l'Ukraine. C'est du deux poids deux mesures pour bon nombre d'Africains, de Moyen-Orientaux et même de nombreux citoyens à travers le monde. D'autant plus que les Africains en général n'ont ni compris ni même apprécié le traitement donc réservé à leurs frères au début de l'opération donc russe en Ukraine. Et ils ont exprimé via les réseaux sociaux leurs préoccupations face à la très grave et dangereuse situation créée en Ukraine et surtout la montée du racisme qu'il y a envers les Africains. Le 28 février, donc face aux images relayées d'abord sur les réseaux sociaux, puis reprises par certains médias, des ressortissants africains victimes de racisme et de mauvais traitements aux frontières ukrainiennes, Macky Sall et Moussa Faki Mahamat avaient alors encore exprimé leurs préoccupations et rappelé que toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant un conflit et ils jugent le traitement différent appliqué aux Africains inacceptable, choquant et raciste et en violation du droit international. Et pourtant, et encore une fois, donc, aucun pays occidental n'a réellement soutenu l'Afrique face à cette situation. Donc l'évolution des contestations au niveau régional pourrait être une autre explication à cette abstention. Depuis plus d'une décennie, un sentiment anti-occidental déferle donc sur le continent africain, notamment au Sénégal. Dakar ne peut plus faire abstraction de cette nouvelle donne qui chamboule la configuration politique. Et en appliquant les sanctions de la CEDEAO, Dakar a fermé le corridor Dakar-Bamako. Cette décision, du fait de l'embargo de la CEDEAO, a fait du Sénégal une cible des partisans donc du pouvoir malien et surtout des nombreux Africains anti-français. À Dakar, au sein des milieux urbains et de la classe politique devenue donc virulente depuis les émeutes de mars 2021, Macky Sall, comme tous les chefs d'État de la CEDEAO, est catalogué à tort ou à raison comme étant l'homme de main de la France. Son régime est la cible donc d'une vaste contestation au sein des partis de l'opposition, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ce que l'on qualifie de sentiment anti-français a une très forte résonance au Sénégal, notamment au sein de la jeunesse urbaine et des élites intellectuelles. Ce sentiment alimente les prises de position pro-russe chez certains jeunes qui ont soutenu donc les putschs au Mali et aussi en Guinée, au nom de la contestation de l'impérialisme occidental. Au Sénégal, donc, des responsables publics dénoncent avec virulence l'impérialisme français et une certaine volonté de la part des Occidentaux d'imposer une démocratie à leur image, en insistant surtout sur des questions de liberté, de genre, etc. Ces derniers ont mis en place un mouvement qui a émergé depuis près d'un an dans la société civile pour appeler à la criminalisation notamment de l'homosexualité et surtout à la fin de l'impérialisme. En effet, avec le discours de plus en plus virulent, surtout des jeunes dénonçant donc l'impérialisme occidental, gagne de plus en plus de partisans un peu partout dans le pays, ce qui oblige donc les États africains à vraiment garder la neutralité. Ce qui fait que maintenant Macky Sall doit faire preuve de dextérité et d'agilité afin de réconcilier les postures divergentes vis-à-vis de la Russie, dont l'image ne cesse de séduire la rue dans toute l'Afrique de l'Ouest et même dans tout le continent africain. Mais mis à part tout cela, c'est l'heure où l'Afrique doit s'unifier et s'imposer au monde entier. Car actuellement, on le voit bien, sans l'Afrique, il n'y a pas d'Occident. Au Burkina Faso, le chapeau de Saponé, donc une commune au sud-ouest de la capitale Ouagadougou, désormais identifiable et reconnaissable facilement par un logotype, est reconnu sur le marché national et même international. Produit par les artisans de la commune de Saponé avec le raffia soudanica, le chapeau est désormais protégé par un certificat, ce qui met fin à son processus de labellisation. Donc, selon le chef du canton de Saponé, ce chapeau qui fait la fierté de tout un pays symbolise la paix. Le chapeau de Saponé donc, a trouvé sa valeur que nos ancêtres nous ont léguée. Il symbolise le pardon, la paix, à la tolérance, l'amitié et la cohésion sociale. Ce certificat nous fait aller donc du XIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui et fait la fierté du Burkina et de tous les artisans de Saponé, explique-t-il. Près de 500 personnes travaillent à la production des chapeaux et avec cette labellisation et sa reconnaissance internationale, les habitants de la commune de Saponé pourront vivre de leur art, donc comme l'affirme le ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Nos artistes souffrent énormément des contrefaçons et des copies illégales de leurs œuvres et avec cette certification, on a un instrument juridique qui permet de protéger et de poursuivre éventuellement tous ceux qui s'adonneront à la copie. Après la remise du certificat d'enregistrement du chapeau de Saponé en indication géographique protégée, les artisans ont été sensibilisés sur la mise en place d'un système de contrôle efficace. L'année dernière, au Burkina Faso, les compagnies minières actives ont été la cible de plusieurs attaques terroristes. Et jusque-là, ces incidents n'ont pas eu d'impact significatif sur la production d'or, principal produit minier d'exportation du pays. Cela dit, la compagnie minière russe Nordgold ne produira plus d'or à sa mine burkinabé Taparco jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'il faut retenir du communiqué publié le samedi par sa filiale locale, donc annonçant la suspension des activités d'exploitation minière sur le site pour cas de force majeure. Toute la zone autour de nos sites d'exploitation, y compris la route au Ouagadougou, sont actuellement sous la menace terroriste. La société n'est toujours pas à l'abri des menaces chaque jour grandissantes contre les installations et contre le personnel, comme l'affirme le PDG. Il faut noter que cette dégradation de la situation sécuritaire au Burkina ne concerne pas que Nordgold. Depuis quelques mois, plusieurs attaques visant les convois miniers escortés par les forces de sécurité ont été enregistrées. Pour autant, Nordgold est la première à prendre la décision d'arrêter la production. Alors que la société a indiqué que les modalités de cette suspension seront détaillées ultérieurement,
plusieurs interrogations émergent concernant notamment le sort des employés locaux de la mine et l'impact sur la production nationale d'or. Pour l'heure, aucune réaction officielle du gouvernement burkinabé, détenteur de 10% d'intérêt dans le projet, n'est disponible. Selon les données de Nordgold, Taparco a produit 53 500 onces d'or au cours des 9 premiers mois de l'année 2021, contre 74 800 onces sur la même période en 2020. Et dans le pays, la compagnie exploite aussi le complexe aurifère Bissabouli, qui a produit 202 500 onces pour les 3 premiers trimestres de l'année passée. Au Sénégal, l'atteinte de l'accès universel à l'énergie d'ici 2025 impose au pays d'investir dans le fonctionnement, l'entretien et la maintenance des infrastructures de production. Le Finlandais Wärtsilä a signé un accord avec la société Malikunda Power pour fournir des services à la centrale électrique de Malikunda Melek, située à Bourg, au sud de Dakar. Le contrat est valable sur 10 ans et la mise en service de l'infrastructure est prévue pour juin de cette année. Une fois l'infrastructure achevée, les Sénégalais pourront bénéficier d'une capacité de production électrique supplémentaire avec à la clé des emplois créés. Wärtsilä est le fournisseur, le premier d'équipements énergétiques au Sénégal et possède déjà 543 MW de capacité installée dans 20 centrales électriques à travers le pays. Avec la centrale de Malikunda Melek, 458 MW font l'objet d'accords de service à long terme. En Afrique de l'Ouest, la filière cacao doit faire face à de multiples défis. À côté des questions environnementales, l'amélioration des revenus des producteurs est un casse-tête pour de nombreux pays de la région, première région productrice d'or brun. Le Nigeria pourrait donc bientôt s'ajouter à la liste des producteurs africains de cacao appliquant le différentiel de revenus décent. Ce dispositif, en vigueur depuis la campagne 2020-2021 en Côte d'Ivoire et au Ghana, impose une prime spéciale de 400 $ sur chaque tonne de fèves vendue afin de mieux rémunérer les planteurs. D'après le numéro 1 de la Cocoa Marketing Company, la filiale d'exportation du Conseil ghanéen de cacao, une potentielle adhésion du pays au mécanisme est discutée activement. Dans le cadre des négociations, le responsable indique que la Cocobod devrait organiser une réunion d'ici mai prochain avec le ministère nigérian de l'Agriculture. Si jusqu'ici, les autorités nigériennes n'ont pas communiqué sur ce sujet, cette démarche devrait déjà réjouir l'Association nationale du cacao qui, depuis 2 mois, appelait le gouvernement à emboîter le pas à ses voisins. Selon l'organisation, la non-collecte du DRD priverait les producteurs d'une enveloppe de 60 milliards de naira par an, donc pouvant contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Plus globalement, selon les observateurs, le soutien du Nigeria reste bienvenu pour le Ghana et la Côte d'Ivoire dans le cadre du bras de fer avec l'industrie chocolatière, même si son poids individuel reste encore faible, donc 5e producteur mondial de cacao avec 270 000 tonnes en 2020-2021.